Le débat du jour.
Nathanaël Vitran.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
Charles Trenet en 1963 chantait la nostalgie de son enfance, si l'on en croit Platon. Au 5e siècle avant notre ère déjà, Socrate évoquait pour s'en plaindre la perte de valeur d'une jeunesse forcément dépravée, à une époque marquée par les conflits, les attentats, les épidémies, le chômage, la précarisation du travail. Pour ceux qui en ont, nous sommes, nous aussi, souvent tentés de regarder en arrière avec regret le monde de nos parents, la vie que l'on imagine plus simple de nos ancêtres. Mais finalement, était-ce vraiment mieux avant? C'est notre débat du jour, soyez les bienvenus.
RFI.
Et pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Sandra Wabian, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste et directrice du pôle évaluation et société au Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Face à vous, Jean-Louis Bocarno, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes généalogiste, auteur du livre « Nos ancêtres étaient-ils plus heureux ?» paru aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci à tous les deux d'être avec nous. D'abord, on va peut-être commencer par préciser que vous ne travaillez pas forcément sur la même échelle de temps. Sandra Wabian, c'est aux évolutions de l'époque moderne que vous vous intéressez.
Oui, plutôt en fait. Les enquêtes sociologiques en général datent des années 60, parfois un petit peu avant, mais globalement, oui, on va pas aller beaucoup plus loin.
Et vous, Jean-Louis Bocarno, vous travaillez sur un temps plus long?
Oui, ben je travaille sur le monde de nos ancêtres, le passé, le monde d'autrefois, mais justement que je mets en regard, en miroir, dans ce livre avec le monde d'aujourd'hui pour savoir si c'était mieux avant, si nos ancêtres étaient plus heureux que nous.
Voilà, on a posé les termes du débat. Est-ce qu'on peut mesurer ce sentiment de nostalgie? Est-ce qu'il existe des indicateurs du bien-être, Sandra Wabian?
Alors, il en existe une multitude, en fait. Pour savoir si les gens sont heureux, on peut tout bêtement leur poser la question. Mais on peut aussi regarder les battements de leur cœur, ou s'ils transpirent. On peut leur demander toutes les 5 minutes comment est-ce qu'ils se sentent. On peut regarder aussi des indicateurs physiologiques. Enfin, c'est infini, en fait. Il y a un nombre infini de possibilités. Mais en gros, quand on regarde, on demande aux gens s'ils se sentent heureux, déjà, ce qui est quand même pas un mauvais indicateur. On a à peu près toujours 8 Français sur 10 qui disent que globalement, dans leur vie, tout va bien.
Jean-Louis Bocarno, comment on fait pour vérifier si nos ancêtres lointains, qui sont plus là pour le dire, et pour dont on ne peut plus mesurer les battements du cœur, étaient heureux?
C'est bien là le problème. C'est bien là le problème. Moi, d'ailleurs, je me garde bien de conclure. C'est le lecteur qui va digérer les éléments de réflexion que je lui soumets, que je lui présente, et puis se faire une idée. Mais nos ancêtres, ben oui, on peut pas prendre leur pouls, on peut pas les questionner, on peut faire une introspection via les archives. On part dans les archives et là, petit à petit, on arrive à brosser un peu un tableau impressionniste et qui montre comment les, enfin, qui nous fait pénétrer, je dirais, le cœur des mentalités. On le voit bien à travers les testaments, les inventaires après décès, les correspondances, etc. On arrive à comprendre avec les habitudes, les coutumes, etc. On arrive à pénétrer ces mentalités d'autrefois et à s'appuyer dessus pour essayer de nourrir le débat.
Qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui? Il y a des enquêtes de l'INSEE sur le moral des ménages, vous l'évoquiez. Il y a un indice de développement humain de l'ONU. Le Bhoutan, vous le mentionnez dans votre livre, Jean-Louis Bocarno, avait instauré un bonheur national brut.
Oui, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ces questions et à raison, parce que pendant longtemps, on a considéré que la croissance, le PIB, était un peu l'indicateur absolu qu'il fallait suivre. Et on s'est rendu compte que cet indicateur, il avait quelques petits problèmes parfois, il n'a pas permis de prévoir la crise, il mesure parfois des choses qui sont un peu contre-intuitives. Par exemple, s'il y a des destructions, s'il y a des catastrophes écologiques, le PIB peut progresser parce qu'on va reconstruire derrière. Donc on se dit que ça peut être intéressant pour gouverner les politiques publiques d'avoir d'autres indicateurs et notamment des indicateurs de bien-être et de bonheur.
Donc la croissance du PIB, de la production, est toujours détachée de celle du bonheur ou de ce qu'on peut en mesurer?
Alors non, pas complètement. Alors le bien-être, il est évidemment fonction de beaucoup, beaucoup de choses. Hein, c'est aussi la difficulté, c'est-à-dire est-ce qu'on peut vraiment synthétiser dans un seul indicateur? Est-ce que finalement vous êtes bien dans vos baskets? Est-ce que vous avez un logement qui est agréable? Est-ce que vous êtes en bonne santé? Est-ce que vous avez des amis? Est-ce que vous avez un couple qui fonctionne bien? Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses quand même pour avoir du bien-être, mais il y a quand même un certain nombre d'indicateurs qui sont parallèles, ce sont tous les indicateurs économiques en fait. Et globalement, les foyers ont de plus en plus d'équipements, par exemple chez eux. Ils ont ils ont tous une télé, ils ont tous des téléphones, alors on peut se demander si ça apporte du bien-être, mais en tout cas, ils ont envie d'en acheter. Donc il y a quelques éléments qui sont parallèles en liaison notamment avec l'équipement en fait.
Jean-Louis Bocarnot, vous êtes intéressé à la progression des richesses, à la prospérité de nos ancêtres. Est-ce que là aussi on peut tracer une évolution ?
Moi ce que je voudrais dire c'est, je rebondis un petit peu sur ce que disait c'est que aujourd'hui, oui c'est vrai, je vois vous avez des outils pour travailler et vous travaillez sur ces questions-là parce que vous voulez poser, parce qu'on a besoin d'avoir ces éléments-là pour s'organiser au plan politique, gouvernemental, etc. Mais on se pose des questions et je crois que la première grande différence avec le monde de nos ancêtres est que nos ancêtres ne se les posaient pas la question. Ils étaient certainement beaucoup plus passifs, beaucoup plus résignés, je caricature un peu, mais en tous les cas, ils n'intellectualisaient pas comme nous, et ils ne se posaient pas des questions, parce que nos ancêtres moyens, illettrés, qui avaient des vies très simples, qui passaient leur vie à travailler, etc., à quoi ça servait-il de se poser ces questions ? Et puis, deuxième grande différence, vous évoquez la société de consommation en disant, voilà, ils ont envie d'eux, etc. Ils ont envie d'avoir, de s'offrir ces biens d'équipement, ces téléphones portables, etc. Et je crois que là, c'est une autre grande différence avec le monde de nos ancêtres, c'est que nos ancêtres voyaient tout ce qu'ils pouvaient acheter, pas forcément, parce que celui qui vivait au fond de sa campagne, qui était l'univers, un univers très fermé, l'univers le plus dans lequel on vivait le plus fréquemment, majoritairement, il ne voyait pas forcément toutes les richesses de la ville, tous les attraits de la société de consommation de son époque. Mais en tous les cas, en tant qu'homme résigné, etc., je pense qu'il n'enviait pas. Il n'avait pas la même réaction d'envie et donc d'insatisfaction, de frustration éventuellement. Et je cite l'exemple des manteaux de fourrure. Là, la fille de l'aristocratie, de la bourgeoisie, pouvait s'acheter un manteau de petit gris, une fourrure rare, chère, etc. La fille d'un milieu plus modeste, d'un couple plus modeste, elle se contentait d'un manteau de lapin. Et n'enviait pas forcément. Et aujourd'hui, on a un nivellement extraordinaire, en ce sens que surtout par Internet, tout le monde peut aller en ligne et accomplir un geste d'achat facilement avec sa carte bleue, etc. Ce qui fait qu'il n'y a plus ces hiérarchies, ces barrières qui existaient autrefois. Était-ce bien, était-ce mal,
Sandra Wabban, on va revenir là-dessus, oui. Jean-Louis Bocarnot. Sandra Wabban, quand on calcule la prospérité qui évolue, effectivement, on parlait de sociétés de consommation, d'équipements qui peuvent équiper la maison, par exemple, il y a quand même des disparités qui vont avoir une influence sur ça peut augmenter globalement à l'échelle d'un pays ou d'une population, mais il y a des disparités qui vont créer des différences.
Il y a des disparités, c'est vrai, notamment par rapport à la question du logement. Aujourd'hui, on dit beaucoup qu'il y a de plus en plus de propriétaires en France, et c'est vrai, mais il y a vraiment une fracture qui s'est créée entre les gens qui ont réussi à devenir propriétaires et ceux qui n'y arriveront jamais, en fait, parce que les prix de l'immobilier ont tellement augmenté que ça devient vraiment un facteur insécurisant, en fait. Donc, on parlait d'équipement, de société de consommation. De ce point de vue-là, il y a quand même eu une amélioration des conditions de vie de la population en général, mais je rejoins Monsieur Bocarnot, il y a quand même un peu cette mécanique de désir qui nous afflige, hein, comme disait Souchon, c'est-à-dire que finalement, on a une frustration qui progresse à mesure que l'équipement progresse. Et on le voit dans nos enquêtes, puisqu'en fait, la proportion de gens qui se disent plutôt satisfaits de leur vie ou heureux, suivant les questions qu'on pose, est toujours de 80% depuis 30 ans, en fait. Hein, ça évolue très très peu. Pourtant, on voit bien qu'il se passe des événements, qu'il y a tout un tas de choses qui ont changé dans la vie des gens.
Donc c'est bien, ça, c'est qu'on crée du besoin, finalement, et donc de l'insatisfaction.
Alors, il y a cette mécanique de frustration et de société de consommation qui a été mise un peu en accusation par beaucoup, mais il y a aussi des besoins, on va dire, plus nobles qui arrivent, c'est-à-dire que vous pouvez commencer à vous intéresser à ce qu'on s'intéresse à vous et que vous ayez une forme de reconnaissance dans votre travail quand déjà vous avez un travail et vous avez un salaire. Et globalement, la mécanique de la population française et des pays occidentaux, elle est un peu dans celle-là, c'est-à-dire que au fur et à mesure, on va vers des besoins qui sont de plus en plus des besoins un peu symboliques et moins des besoins physiques.
On va parler de besoins très concrets. J'aimerais qu'on parle de santé.
Non, moi j'aurais voulu revenir un peu, sur le logement.
Allez-y sur le logement.
Bon, moi je compare donc le monde d'aujourd'hui et le monde d'hier et je fais des constats. Je ne suis pas sociologue, c'est simplement le prisme du généalogiste. Après, ces constats, à chacun d'y réfléchir. Et il y a une chose qui me marque beaucoup à propos du logement. J'écoutais ce que vous disiez et je le dénonce dans ce livre. Je dis, faisons l'expérience et par exemple, justement, maintenant, là, à l'heure d'hiver, au solstice d'hiver, c'est la bonne heure, on se promène dans les rues d'une ville sur le coup de 6h30, 7h. Un peu plus tard, 7h30, 8h. On est frappé de voir le nombre, le petit nombre de lumières allumées, de fenêtres ayant leur lumière allumée. Et vous faites la même expérience au téléphone en téléphonant sur les fixes, dans la mesure où les gens ont encore des téléphones fixes, vous tombez toujours sur les répondeurs, personne ne décroche. Ça veut dire que les gens ne sont pas chez eux. Ben oui, ils sont à leur salle de gym, ils sont au cinéma, ils sont chez le masseur, ils sont en voyage, je ne sais quoi. Et ce qui est très frappant, c'est que, comme vous le disiez, chacun s'escrime sus, sang et eau pour arriver à accéder à la propriété, à avoir son petit appartement, etc. Mais dans lequel on est presque jamais. Autrefois, chez nos ancêtres, il y avait toujours le gardien du foyer, il y avait toujours quelqu'un, alors comme on vivait à plusieurs générations et nombreux sous le même toit, il y avait toujours quelqu'un qui était là pour assurer, en général, un grand-père qui assurait, qui était le gardien du foyer. Mais aujourd'hui, il n'y a personne, l'appartement est vide, sauf que dans cet appartement vide, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, tout ce qu'on a acheté à la société de consommation, et dont on se sert très peu, puisqu'on n'est pas là pour en profiter.
Mais on n'est pas là aussi parce qu'en fait, on a envie de vivre une vie intense. On a envie de profiter de tous les moments de notre vie. Ce qui explique aussi le succès des nouvelles technologies, parce que finalement, on va rentabiliser même les temps morts où on va être dans la quai du supermarché ou dans les transports.
On téléphone dans la rue ou on téléphone en allant au petit coin, etc. Et le téléphone a tout changé parce qu'il a contribué à élargir les horizons. Autrefois, nos ancêtres avaient de fait des horizons très très restreints. Et là, aujourd'hui, pouf, d'un seul coup, les voyages, Internet, on n'a plus de limites.
Alors, on va parler de santé maintenant, si vous avez terminé sur le logement,
oui,
c'est intéressant, ça valait le coup. La médecine ne cesse de faire des progrès, et pourtant ça ne se traduit pas par une amélioration de l'état de santé ressenti, c'est le mot important, Sandra Waban.
Alors, c'est pas que ressenti, hein, c'est aussi que, globalement, on a une espérance de vie qui progresse, mais avec cet allongement de la vie, depuis un certain nombre d'années, on gagne des années, mais des années en mauvaise santé. Des années où on a de plus en plus des maladies neurodégénératives, comme Alzheimer, etc. Donc en fait, les gens voient bien autour d'eux qu'ils ont des personnes âgées, mais qui sont dans un état qui est quand même difficile à vivre. Et ça crée notamment une forme d'angoisse. Et puis, il y a un autre élément qui s'est beaucoup développé, c'est toutes les pathologies autour du travail. On invente tous les jours un nouveau mot pour dire le burn-out, le bore-out, le stress. J'ai vu hyper stressé il y a quelques jours. Il y a quand même à la fois beaucoup d'attentes vis-à-vis du travail et aussi beaucoup de stress et d'angoisse qui entourent.
Mais c'est des
mots
qui n'existaient pas ou sur lesquels on a trouvé finalement des mots MOTS?
C'est-à-dire qu'on avait auparavant des mots très physiques dans le travail. Hein. Il y avait de la pénibilité. Si on fait les grandes masses, il reste des gens qui ont un travail qui est pénible physiquement. Mais on va dire que sur l'ensemble de la population, les mots physiques ont tendance à diminuer. Mais par contre, les mots psychiques, hein, le stress, le fait d'être interrompu quand on travaille, le fait d'avoir des injonctions contradictoires, d'être en relation avec du public, etc. Tout ça, ce sont des éléments qui vont au quotidien gérer le fait qu'on a plus d'insomnie, plus d'anxiété et donc effectivement un état de santé qui d'une certaine manière se dégrade.
Mais je crois que là vous êtes trompé de mots et que Nathanaël nous parlait de mots MOTS, non? Est-ce que c'était les
on
mots
a parlé
qui
des deux. Je disais qu'on a les on deux. A trouvé des mots MOTS à
pour
savoir le burn-out, l'hyperstress
oui,
pour
oui.
qualifier des mots MAUX.
Oui. C'est vrai parce que ça ces mots-là dans les registres de nos ancêtres on ne les trouve pas du tout. Alors deux grandes différences par rapport à ce que vous disiez Sandra Robian, c'est que d'une part vous évoquez la dégénérescence, la sénilité, les personnes qui se sentent seules, désemparées, etc. Nos ancêtres n'étaient jamais seuls. Le vieillard mourait chez lui, mourait tout au moins chez ses enfants, et il était quasiment toujours pris en charge. Bon, est-ce que c'était mieux? Je ne sais pas. C'est un constat encore, hein, là. Et d'autre part, c'est vrai que le stress, le mot stress n'existait pas, non seulement parce que c'est un mot qui n'est pas français, mais parce que le stress que l'on définit comme le stress n'était pas ressenti comme tel. Et parce que nos ancêtres ne pouvaient pas être stressés. Nos ancêtres avaient, entre autres, je parlais de résignation tout à l'heure, et il y avait une chose qui jouait beaucoup, Il ne faut pas oublier que les Français vivaient dans une avec la culture, une culture très très profonde de la religion. Ils avaient la foi du charbonnier. On ne peut pas ne pas le reconnaître. Donc, de ce fait, je pense que il y avait une espérance, il y avait un état d'esprit qui était différent et qui faisait que le stress, le burn-out, c'était pas possible.
Moi, j'irais peut-être un petit peu plus loin que ce que
allez-y.
Vous dites. On a perdu en sécurité ce qu'on a gagné en liberté. C'est-à-dire que le lien avec la religion est effectivement très présent et donc très sécurisant et parfois pour certains aussi peut-être un peu enfermant.
Oui, il était contraignant.
Et de la même façon, dans la vie de couple, le fait d'avoir une vie de couple linéaire avec quelqu'un avec qui on va partager toute sa vie.
Et qu'on n'avait pas forcément choisi.
C'était aussi sécurisant d'une certaine manière. Alors aujourd'hui, on a une vie qu'on souhaite amoureuse plus épanouie, mais pour autant.
Plus simple. Plus simple,
plus simple, plus simple et plus sécurisant, parce qu'on savait il y avait un chemin quand même, un chemin qui était
oui,
donc aujourd'hui
oui,
on a
oui.
on a les gagné beaucoup en liberté et perdu un peu en sécurité, d'où tous ces phénomènes de stress, d'angoisse, mais je suis pas certaine qu'on ait envie d'y renoncer.
Et pourtant on parle souvent de la société des loisirs qui serait la nôtre aujourd'hui.
Oui, alors c'est vrai qu'on a gagné beaucoup de temps libre et c'est un phénomène qu'il y a dans toutes les sociétés occidentales, hein. Le temps de travail diminue à la fois parce qu'on vit plus longtemps, donc il y a quand même des périodes de la vie où on ne travaille pas, qui sont plus longues, et puis également parce que petit à petit, les temps de travail horaire diminuent, avec une évolution qui est qu'aujourd'hui, on peut travailler en dehors de son travail.
Jean-Louis Bocarnot, sur le temps de travail.
Sur le temps de travail, je dirais oui, manifestement, ça saute aux yeux, mais pour certains types de jobs, l'ouvrier, oui, l'employé, oui, il a gagné du temps libre. L'agriculteur, je pense qu'il vit quand même encore un petit peu comme son grand-père ou son arrière-grand-père.
Oui,
il gère son temps libre différemment.
Oui, mais ils sont plus très nombreux en France aujourd'hui.
Non, ils sont plus très nombreux en France. Mais c'est pas partout, si vous voulez. Mais c'est vrai que les loisirs ont augmenté et surtout la façon de les meubler, ces loisirs, la façon de les occuper. Et là, après, on va tomber aussi sur des évolutions. Par exemple, c'est une, pas de mes conclusions, mais un de mes constats. Nos ancêtres, je pense, étaient peut-être plus gais que nous, riaient davantage. Mais sur un registre différent, l'humour a évolué. Et ce qui faisait rire nos ancêtres, était peut-être, on le jugerait très tarte à la crème et très lourd aujourd'hui. Nos ancêtres, on ne rirait pas de ce qui faisait rire nos ancêtres. Et nos ancêtres n'auraient pas ri de ce qui peut nous faire rire aujourd'hui. Donc, les loisirs et le temps libre, on le vivait autrement, je pense.
Un mot peut-être.
Difficile de comparer.
Difficile de comparer, forcément on parle de nombreuses époques par rapport à la seule nôtre. Malgré tout, un mot peut-être sur, on passe moins de temps effectivement à faire le ménage peut-être, parce qu'il y a des outils ménagers qui nous aident à faire ce ménage, des aspirateurs, voilà. Pourtant il y a quand même, les chiffres là aussi cachent une certaine inégalité, les chiffres plus globaux.
Oui, alors il reste plein d'inégalités, hein, des inégalités économiques, des inégalités par rapport à la santé, et puis évidemment des inégalités aussi effectivement entre les hommes et les femmes, puisque ce temps de loisir progresse quand même beaucoup plus vite pour les messieurs que pour les dames, effectivement. Donc encore un peu des progrès à venir.
Il nous reste 30 secondes, Jean-Louis Bocarnot.
Ouais, c'était différent autrefois, dans le sens que chacun vivait dans une case, dans sa case, et y restait, et voulait y rester. Donc l'homme avait ses rôles, ses places, etc. La femme aussi, et tout ça se respectait très bien. C'est complètement différent. Là, on est sur des mentalités qui font que, si vous voulez, on n'était pas sur la même planète.
Bon, eh ben on va conclure là-dessus. C'était peut-être pas mieux avant à ce niveau-là, en tout cas sur l'égalité homme-femme, même si on est encore loin d'avoir fait tout le travail. Merci beaucoup à tous les deux, Sandra Ouabian, Jean-Louis Bocarnot. Sandra Ouabian, je rappelle que vous êtes économiste, directrice du pôle évaluation et société au Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Jean-Louis Bocarnot, vous êtes généalogiste, auteur du livre « Nos ancêtres étaient-ils plus heureux ?» paru aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci également à Florence Ponce et au service documentation de RFI pour leur aide dans la préparation de cette émission. À la réalisation, il y avait Jean-Philippe, merci beaucoup aussi à lui. Restez avec nous dans un instant. Un nouveau journal, excellente soirée à tous à l'écoute de la Radio du Monde.